La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Lorsqu'on mentionne les noms de Jean-Loup Chrétien, Claudie Aigneret, Patrick Baudry et autres Thomas Pesquet, tout le monde sait qu'il s'agit d'astronautes français. Ils ont tous une aura extraordinaire parce qu'ils sont allés dans l'espace, à bord d'une capsule ou d'une station spatiale. Mais qui se soucie des équipes qui ont préparé des missions et qui ont suivi ces astronautes depuis leur sélection jusqu'à leur envol et même au-delà? Sans un ensemble important de chercheurs et d'ingénieurs de l'espace qui préparent et suivent les vols habités, les astronautes n'existeraient pas. J'ai aujourd'hui avec moi Geneviève Garquire, qui a été pendant de nombreuses années un pilier principal de la préparation des vols habités au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, à Toulouse et Paris. Avec un diplôme d'ingénieur en électronique et automatique, elle est passée par des emplois de chef de projet, chef de département, chef de division, en particulier pour les sciences de la vie dans le domaine spatial. Autant de dénominations internes au CNES qui signifient de grandes responsabilités. Elle a aussi été chargée de mission, support auprès du ministère de la Recherche belge à Bruxelles, responsable des affaires pour l'Union européenne et bien d'autres choses encore. Mais ce qui nous intéresse spécialement aujourd'hui, c'est son rôle important. Lors des 7 missions de cosmonautes français à bord des stations soviétiques et russes, depuis Jean-Loup Chrétien jusqu'à Claudie Aigneret et d'autres, et aussi son implication générale dans tous les vols habités auxquels la France a participé, avec la Russie mais aussi la NASA et l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Bonjour Geneviève.
Bonjour Sylvie.
Je viens de parler de cosmonautes et d'astronautes. D'autres parlent de spationautes. Pour la petite histoire, est-ce qu'il y a actuellement une dénomination internationale pour les êtres humains qui partent dans l'espace?
Alors, on parle de spationaute, c'est le terme français. Cosmonaute est le terme russe. Mais le terme international, c'est bien astronaute. Sans oublier d'ailleurs les taïkonautes qui sont les astronautes chinois.
Ah.
Mais si on veut parler de manière générale, on parle donc d'astronautes.
D'accord. Eh bien, j'aimerais d'abord parler de toute ton implication au cours des années de vols spatiaux franco-soviétiques et franco-russes, qui ont duré 20 ans, je crois, entre 1982 et 2002, alors que, il faut le rappeler, l'Union soviétique s'est disloquée le 26 décembre 1991, c'est-à-dire que la coopération spatiale franco-russe a allègrement continué malgré des énormes remaniements politiques. Alors dis-nous comment tout ça a commencé. Raconte-nous les débuts avec Jean-Loup Chrétien.
Alors, moi je pense qu'il faut remonter un petit peu avant Jean-Loup Chrétien. Il faut remonter peut-être en 1966, lors de la signature d'un accord intergouvernemental entre l'URSS et la France sur l'utilisation pacifique de l'espace. Voilà, c'est le début. Donc à cette époque-là, il y a eu des équipes toulousaines de biologie spatiale, notamment avec le professeur Planel, qui ont collaboré avec des instituts russes en biologie. Donc. Ensuite, il y a eu aussi des services de neurologie du CHU de Rangueil, avec le professeur Bess, qui ont aussi collaboré pour faire des recherches scientifiques communes. Et c'est donc à travers ces collaborations qui existaient, dans lesquelles le CNES était impliqué, qu'à un moment donné, le président du CNES, qui était Hubert Curien, est allé vers son homologue russe, qui était donc le vice-président de l'Académie des sciences russes, enfin je dis russe, c'était soviétique évidemment à l'époque, hein, Viktor Kotelnikov. Et donc ils ont conclu un accord pour faire voler un astronaute français. Alors cet accord, il a été signé côté russe, côté soviétique par Léonid Brejnev et côté français par Valéry Giscard d'Estaing. Voilà. Là, on était en 78. Donc signature d'un accord de principe pour faire voler un astronaute français. Dès 1979.
Attends, excuse-moi, donc c'était l'accord, c'était pour un astronaute?
Oui.
C'était pas pour tout un
non,
programme?
Non, c'était un accord
d'accord.
pour un astronaute. C'était
d'accord.
L'accord pour faire voler un astronaute français.
D'accord.
Voilà. Donc le CNES, à ce moment-là, fait un appel d'offres pour sélectionner des astronautes. On va chercher d'ailleurs dans le corps des pilotes d'essai. Hein. Et cette sélection, elle a été principalement assurée par le Centre d'expertise médicale du personnel navigant de l'armée de l'air, et avec le soutien du LAMAS, qui était le laboratoire de médecine aéronautique et spatiale de Brétigny. À l'issue de cette sélection sont retenus Jean-Luc Chrétien et Patrick Baudry, qui seront choisis donc dès juin 80, et dès qu'ils sont choisis, ils partent à Moscou pour l'entraînement. Voilà. Et c'est en juin 82 qu'aura lieu le vol avec Jean-Luc Chrétien. Jean-Luc est retenu comme astronaute, comme cosmonaute, puisqu'on parlait donc de cosmonaute à l'époque, comme cosmonaute titulaire, et Baudry, le suppléant au cas où.
Et c'était pour partir avec Soyouz à l'époque, ou c'était quoi?
Alors, c'était pour aller vers la station Salyut 7, et c'était donc un vol Soyouz.
Et c'était Baïkonour, tu peux nous rappeler dans quel pays en fait est Baïkonour?
Oui, bien sûr, Baïkonour, c'est le Kazakhstan.
Le Kazakhstan.
Le Kazakhstan, voilà.
D'accord.
De 80 à 82, il y a eu donc la préparation de ces astronautes. Et en même temps, en parallèle, le CNES a négocié avec ses homologues soviétiques une série d'instruments pour faire des expériences scientifiques, aussi bien des expériences d'astronomie, de physique des matériaux, de sciences de la vie, de biologie, beaucoup d'expériences qui ont été sélectionnées pour ce vol.
Et vous, toi en particulier, tu as suivi toute l'évolution,
alors, moi,
l'entraînement, enfin, comment ça se passait avec les Russes
alors,
à l'époque?
Pour le vol PVH, bon, moi pour le vol...
Pardon, PVH, c'est le premier vol habité.
Pardon, PVH,
ah, c'est ça. Non, mais...
c'est le premier vol habité, voilà. C'est le vol de Jean-Luc Chrétien.
Voilà.
Oui, moi à cette époque-là, j'avais comme rôle le traitement des données scientifiques au retour du vol. Hein, voilà. Mais donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette mission, donc... tout se passait à Moscou, puisque nos astronautes, enfin nos cosmonautes, pardon, étaient donc à la Cité des Étoiles à Moscou, ils suivaient leur entraînement, et en parallèle, NES préparait les expériences scientifiques, c'est-à-dire les instruments qui devaient permettre de faire des expériences scientifiques. Alors ce qui est intéressant, c'était que à cette époque-là, les soviétiques étaient extrêmement ouverts avec la communauté française, c'est-à-dire les ingénieurs du CNES et les scientifiques. Il y avait des réunions régulièrement qui se passaient soit à Moscou, soit en France, où tout le monde se mettait autour d'une table pour parler, et avec beaucoup de sollicitude, c'est-à-dire les soviétiques n'hésitaient pas à tout nous dire, à tout nous expliquer.
Dans quelle langue est-ce que ça se passait, les échanges avec les Russes?
Alors, les échanges avec les Russes se passaient toujours dans nos langues respectives, c'est-à-dire qu'on parlait en français et les Russes parlaient donc en russe, toujours avec des traducteurs, c'était toujours très protocolaire. Et d'ailleurs, sur les premières réunions, on avait un peu de mal, surtout pour le vol de Jean-Luc Chrétien, on avait un peu de mal à identifier qui était qui dans la délégation russe, et notamment... lors de la mission PVH, il y avait une des traductrices qui paraissait passer inaperçue et qui, tout au long des vols suivants, est apparue comme étant l'élément essentiel, puisque c'était Taya Tabakova qui est devenue le chef de projet de toutes les missions qui ont suivi. Les astronautes, donc les cosmonautes, partaient à Baïkonour une semaine avant le lancement pour se préparer sur place. Les accompagner donc à cette semaine-là à Baïkonour, une petite délégation française. Il y avait toujours le chef de projet et puis deux, trois personnes. Moi, j'ai eu la chance d'y aller deux fois à Baïkonour. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est que non seulement on assistait pendant toute la semaine ou quelques les jours précédents le vol à la préparation des astronautes, hein, aux derniers entraînements, mais le jour du lancement, on avait même la possibilité d'accompagner nos astronautes jusqu'au pas de tir et jusqu'à la fusée, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de tenir dans ma main l'échelle par laquelle Jean-Pierre Aigneret est monté dans sa fusée. Voilà. Ça, c'est important, depuis le développement de l'expérience jusqu'à la qualification, le suivi opérationnel, le vol. Ils nous ont vraiment, vraiment impliqués. En 91, donc, il y a eu la chute du mur. Et notre coopération a continué sans aucun problème. C'est-à-dire qu'après, il y a eu d'autres accords pour faire voler d'autres astronautes. 92, c'était Michel Tonini, puis après en 93, Jean-Pierre Aigneret, puis ensuite Claudie Aigneret.
Et alors là, en fait, comme c'était plus l'Union soviétique, les chefs étaient à Moscou, mais Baïkonour étant au Kazakhstan, il n'y avait pas de problème, c'était deux pays, c'était devenu deux pays différents.
Oui, mais les lancements ont toujours eu lieu depuis Baïkonour.
Et ça a duré jusque le dernier vol, c'était qui? Alors, le dernier vol?
Le dernier vol français, parce que là je parle des équipes françaises, hein, le dernier vol français c'était en 2001, Claudie Aigneret, qui était donc, alors oui, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'au début le premier vol c'était sur la station soviétique Salyut 7, les vols suivants ont eu lieu sur la station Mir, la station russe Mir. Et enfin, donc, le dernier vol, celui de Claudie Aigneret, c'était déjà sur l'ISS en 2001.
La Station Spatiale Internationale. Oui. Et pourquoi ça s'est arrêté, alors? C'était des questions politiques ou...
Non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est que, bon, d'abord, ce que je voulais dire, quand même, insister sur le fait que, tout au long de ces vols, l'implication française a été de plus en plus grande. C'est-à-dire que, on peut dire que les Russes nous ont tout appris. Et sans aucun frein, sans rien nous cacher. C'est-à-dire qu'ils nous ont aidés dans toutes les étapes donc, d'un vol, hein, pour la préparation des expériences, la qualification, les mesures avant-vol. Enfin, ils nous ont vraiment tout enseigné. Et ça, sans aucune retenue, et ça, vraiment, ça a permis à la France d'acquérir une grande compétence. Quand je dis à la France, c'était les équipes du CNES, mais c'était aussi les scientifiques et les industriels qui avaient accès donc à beaucoup d'informations. Voilà.
C'est extrêmement important, ça, je pense. La science par-delà les frontières et la connivence entre et y compris pas seulement entre les scientifiques, mais aussi les ingénieurs, les chefs de projet, tout ce qui est technique, je veux dire. Parce que les gens ont souvent une idée bien différente, des idées d'histoire, d'espionnage et de tout ce qu'on peut imaginer.
Là. Et après donc, cette époque-là, nos astronautes français ont tous été intégrés à l'ESA.
Donc l'ESA qui est l'Agence Spatiale Européenne, et je crois que ça va être intéressant parce que j'ai compris d'après ce que tu m'as dit précédemment, que l'expérience justement avec la NASA et l'ESA était très différente de l'expérience avec les Russes. Nous allons en reparler la semaine prochaine parce que là on arrive à la fin de l'émission. Merci Geneviève et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.